Ah, au début, dans les temps anciens, tout allait bien. Tout allait bien à cette époque où nos lointains ancêtres étaient avec Yahvé, le Saint béni soit-il, le Saint béni soit-il dans le jardin. Il nous parlait, il nous entendait, on s'entendait avec lui, il nous protégeait, on sentait sa bienveillance. Et nous avions tout avec lui jusqu'à ce fameux jour, ce maudit jour, où nous avons pris cette fichue mandragore, ce fruit qu'il nous avait interdit de manger, et ce satané serpent qui nous a dit que si on en mangeait, on aurait une intelligence, on serait comme Yahvé, le Saint béni soit-il. Et Yahvé nous a vidés de ce jardin. Yahvé n'a plus voulu nous voir. Il nous a vidés et impossible d'y retourner. Il a mis les scellés sur le portail, il a mis les chérubins, la communication fichue. Impossible de parler à Yahvé. Comment faire? Comment faire pour réparer? Dieu nous en veut. On ne s'en sort pas. Et nos conditions de vie deviennent de plus en plus dures. Dieu nous en veut. Il faudrait nous améliorer. Il y a bien des années, le Saint béni soit-il nous a envoyé Moïse. Il nous a précisé que nous pourrions nous en sortir en appliquant la loi que le Saint béni soit-il nous a donnée, mais impossible. On a toujours une circonstance qui nous fait dévier. C'est sans issue. Même Ésaïe, qui parle parfois de la part de Yahvé, a dit quelque chose qui montre bien comment ça va mal. Et je l'approuve entièrement, notre ancêtre Ésaïe. Pourquoi? Pourquoi, ô Éternel, pourquoi nous fais-tu donc errer loin des voies que tu as prescrites? Pourquoi rends-tu notre cœur obstiné au point que nous n'ayons plus de respect pour toi? Reviens pour l'amour de tes serviteurs et des tribus qui t'appartiennent. Ton peuple saint a possédé le pays pour bien peu de temps. Nos ennemis ont piétiné ton sanctuaire. Nous sommes depuis bien longtemps comme des gens sur qui tu ne régnerais pas, qui ne porteraient pas ton nom. Oh, si tu déchirais le ciel! Oh, si tu descendais! Oh, si tu déchirais le ciel et si tu descendais! N'est-ce pas bien dit? Mais on peut toujours rêver. D'où viendra le retour à une situation normale? Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. En attendant, moi je suis comme David, notre ancêtre, qui disait toute sa nostalgie d'un temps heureux. Comme une biche auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je près de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit « Où est ton Dieu ?» Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais, entouré de la foule, et m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris d'une multitude en fête. Combien de siècles devrons-nous encore souffrir, supporter cette souffrance? D'où nous viendra le secours? Comment retrouver cette présence vitale de Yahvé? Michée a dit quelque chose d'étrange, qui semble concerner un homme particulier que Yahvé doit nous envoyer, c'est celui qui doit ramener la paix. Mais quand? Il a même précisé qu'il habiterait Bethléem. Disons que pour le moment, il ne s'y passe pas grand-chose à Bethléem. Et il y a des boulangers à Bethléem. C'est la maison du pain. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur l'Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée. Il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Mais au fond, comment ça va se passer? Même Ésaïe en parle aussi d'un serviteur. Et un serviteur particulier, à la fois roi, à la fois un pauvre homme. Mais comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que ça va se passer? Voici ce que dit notre ancêtre. Il en parle franchement bizarrement. Mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils d'hommes, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qui n'avait point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, et cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais qui est cet homme? Quand va-t-il venir? Parce qu'enfin, s'il est roi, pourquoi devrait-il apparaître sans éclat, sans beauté? Pourquoi devrait-il être faible et souffrir? Pourquoi devrait-il souffrir un châtiment, subir un châtiment? Pourquoi ne réagit-il pas comme une brebis? Il n'a pas réagi comme une brebis devant ceux qui l'attendent. Pourquoi devrait-il être mis au rang des malfaiteurs? Comment pourrait-il pardonner les péchés du peuple? Celui qui a intercédé pour le peuple, n'était-ce pas Moïse, notre ancêtre, dans le désert? Celui qui vient, va-t-il à nouveau intercéder pour les coupables? Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais. Je vous invite à chanter le 427, « Je n'ai que toi ».
Qui a cru? Depuis Ésaïe, le prophète, l'appel, la question retentit. Qui a cru? Évangile de Matthieu au chapitre 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. Parmi elles, il y avait Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Qui a cru? Qui pouvait croire? Je ne t'abandonnerai pas. Même si les autres t'abandonnent, je ne t'abandonnerai pas. Où sont-ils les compagnons? Où sont-ils les 72 qui avaient parcouru le pays pour annoncer l'arrivée du royaume de Dieu? Et les 12 fidèles qui montaient à Jérusalem accompagnant le roi qui s'avançait? Où sont-ils les 12 qui vibraient quand la foule acclamait « Hosanna au fils de David » Les 12 qui se disputaient déjà les places d'honneur, un à droite, l'autre à gauche, aux côtés du souverain, ambition du pouvoir, ils se voyaient ministres déjà. Où sont-ils? L'un a trahi, 30 pièces d'argent, l'affaire est faite. L'autre a renié. Je ne le connais pas. Je jure, je ne connais pas cet homme. Et tous les autres, absents, évanouis, inexistants. 3 ans d'amitié, 3 ans à parcourir le pays. 3 ans d'amitié. Je ne vous appelle pas serviteur, je vous appelle ami. 3 ans de vie partagée et de repas pris ensemble. 3 ans à voir les paralytiques se lever et marcher. 3 ans à entendre les aveugles dire « Je vois !» 3 ans à sentir la caresse du vent qui souffle. 3 ans pour rien. Où sont les amis? Inexistants, cachés, terrés. À la croix, Jésus est seul, désespérément seul. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quand le soir fut venu, Joseph d'Arimathée demanda le corps de Jésus à Pilate. Joseph prit le corps, l'enveloppa, le déposa dans son propre tombeau. Il roula une grosse pierre pour fermer le tombeau et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises, face au tombeau. À la fin de ce jour-là, le royaume, le rêve du royaume, est enterré. L'amitié est disloquée. Qui a cru? Qui pouvait croire? Rien ne s'est passé comme on l'espérait. Pas de légion d'anges, pas de miracle, rien qu'une lente agonie, comme celle des 2 brigands. Et face au tombeau, 2 femmes assises. La pierre est mise en place, rugueuse, froide, dure. Jésus est mort, et non seulement il est mort, mais il a crié l'abandon de Dieu. Non seulement il est mort, mais il est maudit. Maudit quiconque est pendu au bois. Jésus est mort hors de toute catégorie de salut. Et dans la nuit qui vient, face au tombeau, 2 femmes sont assises. Le lendemain, les chefs des prêtres allèrent chez Pilate et lui dirent « Seigneur, cet imposteur a dit quand il vivait encore « Après 3 jours, je reviendrai à la vie. Ordonne donc que le tombeau soit gardé, afin d'éviter que les disciples ne viennent voler le corps. » Pilate leur dit, « Vous avez une garde, faites garder le tombeau comme vous l'entendez. » Ainsi, après un procès inique, après avoir manipulé la foule, demandez Barabbas. la dernière touche est mise. Le tombeau est gardé par des soldats et la pierre est scellée. Perfection de la haine. Les soldats sont là pour s'assurer que la mort reste souveraine. Il faut qu'ici règne la paix, mais c'est la paix des cimetières. Matthieu 28, les versets 1 à 8.
Après le sabbat, dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un fort tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un éclair et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Les gardes en eurent si peur qu'ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur la croix. Il n'est pas ici. » Il est revenu de la mort à la vie, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Allez vite dire à ses disciples. Il est revenu d'entre les morts et il va maintenant vous attendre en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Elles quittèrent rapidement le tombeau, remplis tout à la fois de crainte et d'une grande joie, et coururent porter la nouvelle aux disciples de Jésus.
Face à face étonnant ce matin-là. Dans l'aube incertaine, les femmes arrivent portant leur peine et leur tristesse. Face à elles, les soldats. Toute la nuit, ils ont gardé la tombe. Pour que rien ne se passe, pour que rien ne bouge. Et voilà justement que tout à coup ça bouge, la terre tremble. Le clair-obscur du jour commençant est inondé de lumière, éclair, blancheur de neige. Les gardes qui avaient scellé la pierre sont pétrifiés. Ils gardaient le royaume des morts, ils sont comme morts. L'ange roule la pierre, s'asseye dessus. Voilà une pierre qui ne bougera plus. L'ange s'adresse aux femmes. Vous cherchez Jésus qui a été crucifié? Il n'est pas ici. Voyez l'endroit où il était couché. Allez dire aux disciples qu'il est revenu de la mort à la vie. Elles étaient venues visiter la tombe. Peut-être s'asseoir en face, comme au soir de l'ensevelissement. Mais maintenant, elles courent remplies de crainte et de joie. Ces deux femmes sont les deux premiers évangélistes. Elles courent évangéliser les apôtres eux-mêmes. Elles courent porter la bonne nouvelle. Jésus, celui qu'on a cloué sur la croix, est ressuscité. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'au tombeau vide, l'éternel Dieu lui-même se révèle comme le Père du crucifié. L'homme Jésus qui est mort, totalement disqualifié, socialement, totalement disqualifié religieusement. Ce Jésus qui criait dans son agonie, son abandon, cet homme-là est le Fils de Dieu. Là où tout démontrait l'absence de Dieu, là où le mal était à son paroxysme, dans la torture et l'insulte, dans la malédiction et le désespoir, là, sur la croix, Dieu lui-même était encore présent dans son Fils, Jésus, le Christ. Alors, avec Paul, je peux dire, j'ai la certitude que rien, ni la mort, ni la vie, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Jésus est ressuscité, l'ange l'affirme, le tombeau l'atteste. Alors les deux Maries courent, courent annoncer la bonne nouvelle. Elle court et un nouveau jour commence. Nous allons maintenant chanter le chant numéro 371. C'est un credo. Nous croyons. Alors moi, je ne suis pas un fanatique des chants. Mais il y a une raison dans le texte même pour chanter ce chant. Pendant que les deux maris courent vers les disciples, il se passe autre chose. Les soldats sont revenus de leur état cataleptique et eux aussi se mettent en chemin pour informer les grands prêtres de ce qui est arrivé. Si on compare leur niveau d'information, on se rend compte qu'il n'est pas si différent du niveau d'information des femmes. Ils ont senti la terre trembler, ils ont vu la grande lumière, ils ont constaté que la pierre est roulée, ils ont vérifié que le tombeau est vide. Et pourtant, ils choisiront d'accepter la somme d'argent de la main des grands prêtres pour répandre la rumeur du vol du corps de Jésus. La résurrection a ceci de mystérieux, qu'elle ne s'impose pas. Ce n'est pas une évidence incontournable. En fait, seule la mort est incontournable. La résurrection, elle, elle a cette sorte de fragilité qui est dans la nature même de la vie. Aussi, accorder sa foi à la bonne nouvelle de la résurrection, ça reste un choix. Et je vous invite à faire ce choix en chantant « Nous croyons en Dieu le Père ».
Réjouir en ce jour de Pâques. En ce premier jour de la semaine, deux hommes, Cléopas et son ami, le cœur plein de tristesse, étaient en chemin pour leur village, Emmaüs. Tant d'espoir s'était évanoui qu'il était temps de retourner, lui à sa vigne, l'autre à ses oliviers. Ces deux hommes, Ils n'étaient pas des 12, mais pendant 3 ans, ils avaient suivi l'homme de Galilée. Ils l'avaient vu faire tant de miracles, guérir tant de malades, rendre la vue à un aveugle, consoler la veuve, lui rendant son fils unique. Ils l'avaient vu ressusciter Lazare, multiplier les pains et les poissons. Ils avaient entendu parler de la tempête apaisée, de celui qui avait marché sur les eaux. Mais surtout, ils l'avaient entendu annoncer la venue du royaume. Nationalistes convaincus, peut-être même du parti des Zélotes, ils avaient espéré que ce serait lui qui rétablirait la dignité du peuple en chassant les Romains. Mais, à leur grand désespoir, ils ont vu l'homme de Galilée expirer sur la croix. Ils l'ont entendu prononcer ces paroles ineffables. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et encore, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis il y eut un grand cri, le soleil s'était obscurci et il faisait nuit. Avec les 11 disciples et plusieurs femmes dévouées au maître, Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et encore d'autres femmes, ils avaient passé la journée du sabbat dans le deuil et la tristesse. Ces quelques femmes avaient été absorbées à préparer le nécessaire pour embaumer le corps de celui qu'elles avaient suivi et aimé. Le sabbat passé, les deux hommes avaient donc décidé de retourner à leur occupation au village. Tout en marchant, ils ne pouvaient s'empêcher de reparler des événements qui avaient ébranlé tout Jérusalem. Il est vrai que ce matin même, avant de quitter la ville, une rumeur persistante circulait. L'homme de Galilée serait vivant, ressuscité. Mais comme c'était des femmes qui avaient répandu la rumeur, pour eux, le doute était permis. Eux, en tout cas, ils ne l'avaient pas vu. Alors qu'ils faisaient route vers le village, un étranger les avait rejoints. L'inconnu, surpris par leur tristesse, semblait tout ignorer de l'affaire. Aussi Cléopas et son ami mirent grand soin de l'informer, étonnés qu'ils étaient que, venant de Jérusalem, l'inconnu fut dans l'ignorance des événements. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, les chefs du peuple l'ont fait arrêter il y a 3 jours déjà et l'ont livré aux Romains pour le faire crucifier. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait notre nation des Romains, mais ça fait 3 jours déjà qu'il repose dans son tombeau. Il est vrai que des femmes s'étant rendues tôt ce matin au tombeau l'ont trouvé vide. Elles prétendaient même que des anges leur sont apparus annonçant qu'il est vivant. 2 de nos amis sont aussi allés au tombeau. Effectivement, ils l'ont trouvé vide. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. C'est alors que l'étranger se mit à leur rappeler les récits de l'Ancien Testament, préparant le peuple à ces sombres journées, leur expliquant la signification de l'agneau pascal à la sortie d'Égypte, ou lors de la traversée du désert, la signification du rocher frappé et donnant l'eau vive au peuple assoiffé. Ou encore l'histoire du serpent d'airain guérissant les Hébreux mordus par les serpents brûlants. Puis il leur parla des prophéties, prophéties qui aujourd'hui étaient accomplies. À l'entrée du village, l'homme de Galilée fit mine de poursuivre son chemin. Mais les deux disciples, captivés par les paroles de l'inconnu, le pressèrent de rester, car le jour était déjà sur son déclin. Ensemble, ils s'apprêtèrent à partager un frugal repas, du pain et du vin. Le voyageur, ayant rendu grâce, prit le pain de ses mains. Les deux disciples virent alors avec étonnement les mains blessées de l'inconnu. Mais lorsqu'il rompit le pain, le geste leur devint familier et leurs yeux s'ouvrirent. Ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Débordant de joie, ils foncèrent à Jérusalem. Entrant précipitamment dans la chambre où leurs amis étaient rassemblés, tous, d'une même voix, s'écrièrent « Il est vivant ! Il est vivant ! Il est réellement ressuscité !» C'est magnifique. On aimerait bien être dans cette chambre et pouvoir tous ensemble crier « Il est réellement ressuscité ! Il est vivant ! » Est-ce que nous y croyons ? Oui, nous y croyons. Il est vivant, ressuscité. Alors nous allons chanter ce chant. Il est réellement ressuscité. Le numéro 78. Seigneur, dans notre voyage aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés pour ce temps de culte, ce temps de louange, ce temps de prière et de méditation. Aujourd'hui, nous sommes à Emmaüs. Si souvent, nous avons été aveugles devant les signes de ta présence, ce n'est qu'après que nous réalisons que cette main tendue, cette parole juste, ce geste généreux, ce pardon offert, cette communion vécue, ce sourire d'un étranger, c'était donc toi.
Seigneur, pardonne notre lenteur à te reconnaître et notre peur à te répondre. Que ton esprit éveille notre esprit à ta présence. Que ce pain rompu et partagé convertisse notre regard, qu'il parle à notre cœur et qu'il nourrisse notre foi. Que ce pain rompu nous dise ton corps livré pour nous. Que cette coupe partagée nous dise ton sang versé pour la multitude. Que ce repas nous annonce le festin qui nous attend. Amen. Amen.
Il y a une coupe de jus de raisin, donc pour ceux qui désirent ne pas prendre de vin, mais du jus de raisin, ils n'ont qu'à faire signe et quelqu'un leur apportera. Ensuite, pendant la distribution et la prise de cette communion tous ensemble, sentez-vous la liberté de vous exprimer, de dire un texte, de dire une prière, de reconnaissance, de joie, de louange. Voilà, dans cette liberté, faites-le. Il y avait cette salutation de Pâques qui se faisait. Quand on saluait à Pâques, le dimanche matin, c'était « Le Seigneur est ressuscité ».
Il est réellement ressuscité.
Voilà, c'était ça, c'est magnifique. Alors, en communion tous ensemble avec notre Dieu dans cette joie de Pâques, en communion aussi avec tous les chrétiens, y compris ceux qui souffrent, mais dans cette joie qui déborde tout, qui va plus loin, je vous propose que nous le vivions ensemble. Alors, pour ce faire, puisqu'on est debout, déplaçons-nous, allons serrer la main à l'un ou à l'autre, et vivons ça ensemble pendant un petit moment, et après nous reprendrons place pour vivre cette joie de Pâques, vous verrez comment. Allons, on y va. Le Seigneur est réellement ressuscité. Allez, portant cette parole de vie et non de mort. Tout cela me fait-il vibrer à l'intérieur? Vous fait-il vibrer? Vous réjouir? Même quand c'est difficile. Ce matin, quand je lisais avec la Ligue, que nous sommes limités dans notre compréhension par nos limites humaines. Nous avons des doutes, nous avons des faiblesses, nous avons des épreuves, des choses qu'on ne comprend pas. Oui, tout cela nous limite dans cette compréhension de la résurrection, cette chose spirituelle, ce qui se passe en nous, ce qui s'est passé à la résurrection. Mais tout cela ne limite pas la puissance de la résurrection aujourd'hui pour nous et pour tous ceux qui nous entourent. En fait, la question, c'est en quoi la résurrection me touche? Je suis mort avec lui, et si je suis mort avec lui, je ressuscite avec lui. En quoi la résurrection me touche aujourd'hui? En quoi elle me ressuscite à quelque chose? Est-ce qu'elle va provoquer en moi des changements, une nouvelle orientation, une progression dans ma relation, une sanctification, cette relation à Dieu, aux frères, aux sœurs, aux autres, à tous ceux qui nous entourent, famille, amis, collègues, copains, etc. Mon cœur, votre cœur brûle-t-il comme celui des disciples sur le chemin d'Emmaüs? Notre cœur ne brûle-t-il pas en chemin? D'accabler ses disciples, ils sont ressourcés par les paroles du Christ. Leur tristesse s'est transformée en joie. De retour à leurs habitudes passées, ils reviennent vers les autres pour leur dire qu'il est vivant. De victimes de tout ce qui s'est passé, ils reviennent en témoins de la résurrection. Oui, il est vivant. En quoi la résurrection me redonne vie aujourd'hui? Et c'est dans ce sens-là que je vous propose, dans cette joie, qu'est-ce que la signification de la résurrection pour moi, qu'est-ce que ça me touche, je vous propose un moment de prière où nous pouvons nous offrir à Dieu, lui dire, je suis là. J'ai des doutes, Seigneur, mais je crois, viens m'éclairer, entraîne-moi à ta suite dans ce chemin de résurrection. déjà, maintenant, ici-bas. Alors je vous propose de prier un moment, et puis bien sûr de prier pour tous les sujets de prière que vous avez à cœur dans ce temps de Pâques, pour les autres aussi. Ce chant de Pâques, à toi la gloire, ô ressuscité, je vous propose de vous lever et de chanter ce magnifique cantique. Tu disais, est-ce que le Seigneur ressuscite nos porte-monnaies? Alors voilà, vous savez que l'Église et la mission et tout ce qui va alentour de notre Église, elle a besoin bassement de choses matérielles comme de l'argent, mais aussi du temps, parce que nous pouvons aussi offrir à Dieu du temps, nous pouvons offrir notre talent, mais aussi ce qui nous aide à vivre et partager. C'est l'occasion de donner une part de nos biens. Alors en ces temps où on se réjouit, nous voulons nous réjouir aussi en passant entre nous, en vivant ce moment de communion intense avec nous, entre nous, puisqu'ensemble on donne, et aussi avec ceux qui sont loin pour annoncer, pour dire cette bonne nouvelle dans tous les pays, pour la partager, pour dire il est ressuscité, il est vivant, il change les vies. Et aussi pour tout ce dont nous avons besoin pour vivre en communauté. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier. Parce que c'est vrai, c'est toi le premier qui nous a donné. Tu nous as appelés à la vie. Et tu nous as donné ton Fils Jésus, qui est mort, mais qui est ressuscité pour nous. Tu nous dis, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Et tu nous donnes toutes choses. C'est vrai que nous sommes des privilégiés, ici à Genève, en Suisse. Reçois la reconnaissance du fond de nos cœurs. Parce qu'en plus de l'espérance, en plus de la joie de Pâques, tu nous donnes de quoi nous rassasier, nous vêtir, nous loger et la paix. Oui, nous voulons penser à tous ceux qui n'ont pas ces biens, mais qui ont cependant cette joie de Pâques dans leur cœur. Tu les bénis. Nous pensons à tous ceux qui, Seigneur, sont au loin par rapport à nous, travaillent dans des pays, toutes ces églises partout, Seigneur, qui, en communion avec toi, annoncent cette bonne nouvelle. Bénis-les. Et bénis chacun de ceux dans notre communauté qui ont la responsabilité de partager cette offrande, ces dons, ceux du CCP, etc. Seigneur Jésus, tu les bénis aussi et tu nous gardes dans ta joie. Amen.
Nous voulons terminer ce moment de culte par un verset du dernier chapitre de la Bible, le chapitre 22 de l'Apocalypse. Celui qui atteste ces choses... Oui, vous pouvez vous lever, c'est sympa. Celui qui atteste ces choses et qui est vivant au siècle des siècles, voici ce qu'il dit. Oui, je viens bientôt. Amen. Alors nous répondons, oui, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Alors que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous en cette journée et jusqu'au prochain Pâques. Amen.